Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. Sign up today at Cerebral.com/podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends April 30th. See site for details.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Je suis Tipora et vous écoutez Tant que je serai noire, le podcast qui tente de répondre à la question « Tant que je serai noire, serai-je mère ?» Ici, vous trouverez des témoignages de femmes qui nous parlent de désir ou non-désir d'enfant et toutes les thématiques qui gravitent autour. Afin de donner encore plus de rayonnement à leurs témoignages, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos likes, commentaires et étoiles sur Apple Podcasts pour montrer que vous êtes nombreuses et nombreux à apprécier le podcast. Partagez et taguez le compte Instagram Tant que je serai noire dans vos stories et je repartagerai. La monoparentalité est le fait pour un enfant de ne vivre au quotidien qu'avec l'un de ses deux parents. Et ce, pour quelque raison que ce soit. Choisi ou subi, à la suite d'un divorce, d'une séparation, de la non-connaissance ou du décès d'un des conjoints. Dans cet épisode, je vous invite à découvrir le témoignage de Laurie, créatrice de Read Club, une femme à la joie de vivre et au grand cœur qui nous parle de son histoire et de sa casquette de maman solo. Bonne écoute.
Je m'appelle Laurie Pézeron, je tiens ce nom de famille, première du nom de mon père. Donc je suis une aînée de 3 filles et je suis une activiste afro-culturelle. J'ai baigné dans la culture hip-hop depuis jeune. J'ai eu l'idée de créer en 2007 un club de lecture dédié aux auteurs afro. Et en fait, dans le statut de cette asso, c'est auteur afro et issu de la culture hip-hop. Donc voilà, je travaille dans la communication, j'ai travaillé dans les médias pendant longtemps. Alors, cette question de l'enfance, elle est toujours un peu compliquée pour moi. Je pourrais parler de mon adolescence, mais mon enfance, bon, pas de... À chaque fois, elle est un peu compliquée. Je sais que j'étais pour la première fois à New York à 17 ans. Avec du recul, aujourd'hui, je me rends compte que ça a été déterminant dans ce que je fais, dans ce que je regarde comme film, dans ce que j'écoute, dans ma manière d'être, tout court. J'étais dans un collège privé catholique. Et après, je suis arrivée dans un lycée public où j'ai foutu la merde, où j'ai redoublé ma seconde. Et j'aime bien cette anecdote. Donc, j'ai redoublé ma seconde. Et à l'époque, ah oui, on n'avait pas de téléphone portable. Donc, il y avait des cabines téléphoniques à l'intérieur du lycée. Et j'avais appelé ma mère pour la prévenir, quoi. Au fait, maman, j'ai un truc à te dire et tout. Je prends ma carte, enfin bref. Et elle me dit, oui, qu'est-ce que t'as à me dire? Elle était en train de travailler et tout. Je dis, bon, ben, on m'a annoncé mon redoublement. Elle me dit, mais on se voit ce soir, Laurie. Pourquoi tu m'appelles maintenant? Ok, bon, ben, à ce soir. Et arrivé, je pensais que j'allais me faire gronder, machin et tout. Et ma mère m'a dit, t'es étonnée que tu redoubles entre toi et moi. Avec toutes les sorties que tu fais, enfin, tu travailles pas, est-ce que tu es étonnée de redoubler? Et donc, j'ai levé les épaules en mode, ben non. Et c'est pour ça que j'ai précisé que j'étais en privé avant, c'est-à-dire que j'étais dans un mode liberté arrivé au lycée. Et puis c'est vrai qu'au collège, il y avait beaucoup plus de blancs, et dans le lycée où j'étais, il y avait beaucoup plus de noirs et d'arabes. Donc c'était en mode fiesta et tout. Et ma mère m'a dit, quand tu comprendras que tu es à l'école pour toi et pas pour moi, ben peut-être que tu te mettras à bosser. Et franchement, elle m'a mis la pression en me donnant pas de en me grandant pas en me disant ça. Elle a trop raison. Elle me fait, là, tu vas redoubler. Tu vas te retrouver avec des gens plus jeunes que toi. Tu vas avoir exactement le même programme. Tu vas refaire ce que tu as déjà fait. Et c'est même pas comme si tu n'avais pas la capacité. Si tu avais encore des difficultés, c'est genre, non, tu as choisi de t'amuser, en fait. Et voilà, j'ai redoublé ma seconde. Et c'est l'année où j'étais déléguée du lycée d'AS Milan, au Kremlin-Bicêtre. Et j'allais au rectorat, je faisais les grèves parce qu'on n'avait pas de chauffage. Enfin, franchement, voilà, c'est, s'il y a une partie de mon enfance... ouais, c'est la première année où j'étais à New York, j'avais travaillé l'été, mes parents m'avaient aidé à payer mon billet. On avait 17 ans avec une copine, donc on pouvait aller nulle part parce qu'on n'avait pas la majorité là-bas. En plus, quand on voyage à 17 ans, on ne prépare pas son voyage avec son guide et tout ça, c'est on y va en fait. On était dans des soirées au fin fond de Brooklyn. Enfin, l'insouciance, franchement, nous fait faire vraiment n'importe quoi. Mais ça s'est super bien passé. J'étais trop contente de marcher à Harlem. Je me retrouve sur la 125e à Harlem avec ma pote. Donc mon accent anglais est très français, en fait. Les magazines The Source que je cherchais à Paris dans un kiosque spécialisé, ben, ils étaient dans tous les kiosques à New York, avec Essence, enfin, avec tous les magazines et compagnie. Les pubs, même des pubs de voitures, où il y avait une pub Milk aussi. C'était des basketteurs avec une moustache de lait. Enfin, en fait, des pubs de nourriture avec des noirs dedans. En France, quand le peu de fois où il y avait des noirs, c'était soit du cheveu, soit du voyage, soit du préservatif, quoi. On pouvait pas boire de l'eau, on pouvait pas prendre l'avion, enfin bref. Et avec du recul, je me rends compte que ça a été déterminant dans tout ce que j'ai fait, quoi, tout. C'est ce que je retiens de mon enfance, de ce redoublement. Et puis en plus, après ça, j'ai pas eu mon bac. À ça, enfin, quelques centièmes. Mais je voulais pas passer 4 ans au lycée. J'avais déjà renommé ma seconde. Et du coup, j'ai tout fait pour pas retourner au lycée et j'ai passé mon bac en candidat libre. Et du coup, en fait, ce que peu de gens savent, c'est qu'on peut valider les matières dont on a eu la moyenne et repasser que les matières on a pas eu. Voilà. Et j'étais au lycée du temps choisi. Donc, c'était un lycée qui était comme une fac, en fait, où on allait qu'aux matières qu'on n'avait pas eues. Donc, j'avais 10 heures de cours par semaine, à peu près. Et c'était des blocs de cours. Quand j'avais histoire, c'était pas histoire lundi ou mardi, c'était un bloc d'histoire de 4 heures, voilà. Et j'ai eu mon bac en candidat libre comme ça, ouais. Mais il y a plein de gens qui savent pas. Et en fait, si on peut repasser son bac en candidat libre et garder ses notes au-dessus de la moyenne. Et le lycée du temps choisi, c'était pareil, c'était une nana qui était plutôt militante au final, avec du recul. C'était une école alternative pour les profils, pour les lycéens atypiques dont le mode de fonctionnement de lycée leur allait pas. Et c'était pas privé, hein, c'était public. Mais il y avait le lycée classique et le lycée du temps choisi. Il y avait quand même une sélection. Vraiment, moi, j'avais tout fait pour pas retourner au lycée. Et ma mère, elle dit, tu fais ce que tu veux, mais il faut que tu repasses ton bac. Et moi, j'ai dit, je passerai mon bac, mais je retournerai pas au lycée. Alors, comme toutes les jeunes filles, je voulais être styliste, alors que je n'avais pas dessiné. Mais je disais, non, mais je serais modéliste. Les stylistes, ils dessinent. Moi, je conserverais les vêtements. Et en fait, j'avais fait pas mal de portes ouvertes. J'avais oublié tout ça. De portes ouvertes d'écoles de mode, dont S-Mode. J'avais été à S-Mode, qui n'était pas international comme aujourd'hui. Et j'avais assisté à un des défilés des étudiants. Et en fait, ce qui est bien avec S-Mode, c'est que c'est une école qui forme à tous les métiers de la mode. Et j'avais découvert le métier d'attaché de presse, où c'était la personne qui invitait la presse, nanana, nanana. Je me dis, oh, parce que j'ai toujours aimé les médias, je lisais 20 ans, Jeune et Jolie à l'époque, tout ça, je les avais tous. Enfin bref, voilà, j'ai toujours aimé la presse. Quand j'avais le budget, j'achetais l'Officiel de la mode. Donc voilà, j'ai toujours été très, très presse. Et quand j'ai découvert ce métier de relations presse, relations publiques, je me suis dit, ah, mais c'est ça, je peux travailler dans la mode sans savoir dessiner et en même temps m'occuper d'un truc qui m'intéresserait. Puis je voulais rentrer dans une grande école de communication, mais j'avais pas le budget, mes parents non plus. Et puis à l'époque, comme j'avais 10 heures de cours, je travaillais. Je travaillais au Club Med World, qui n'existe plus. Il y a plein de choses qui n'existent plus. Le Club Med World à Paris, c'était à Cours Saint-Émilion avant. Maintenant, c'est un resto. Enfin, il y a la FNAC, il y a un truc de thé. Enfin bref, c'était un grand complexe où il y avait leur agence de voyage et il y avait une boîte de nuit. Il y a un grand restaurant qui plombait sur la boîte de nuit. Il y avait des spectacles comme dans les Club Med. J'étais serveuse là-bas, barmaid. Et il y avait un des managers, tu sais, parce que je me creusais la tête de comment je vais payer cette école de mode. Et il me dit, mais tu peux faire tes études de com sans payer, en fait. Soit tu vas à la fac, soit tu fais un truc en alternance. Pourquoi tu vas payer un truc que tu peux faire gratuit? J'ai fait, ah ouais. Et du coup, j'ai opté pour le BTS de com en alternance. J'ai galéré pour trouver une entreprise, mais vraiment. Puis à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, moi, à l'époque. J'envoyais du courrier. Ah ouais, à l'époque, il n'y avait pas. J'ai bientôt 40 ans. Quand je recevais une réponse négative par courrier, j'étais heureuse parce qu'on me répondait, quoi. Déjà, rien que le fait de me répondre, mais c'était le tout début des sites internet et j'ai commencé dans une agence qui faisait mais des vieux sites. Ça s'appelait lafabrique.com et on faisait des sites des ministères, mais c'était les premières, ouais, le ministère de l'agriculture, le ministère. Enfin, mais c'était vraiment des petites boîtes, c'était des startups de l'époque. Et c'est là-dedans que j'ai trouvé mon truc en alternance. Comme ça, j'ai commencé. Mais voilà, j'ai bossé autant en boîte de nuit qu'en restauration. Et en même temps, je faisais mes études de com. Je faisais l'attaché de presse pour des rappeurs français. J'ai un pote qui avait créé son label, Pitch, à DG Records. Il avait besoin d'une attaché de presse. Donc, je faisais l'attaché de presse pour des artistes qui n'étaient pas encore connus. Donc voilà, j'avais beaucoup d'énergie à l'époque. Je trouve que c'est ce qu'on n'apprend pas, en fait. C'est qu'on dit souvent aux gens qu'ils doivent apprendre à se connaître et tout. Et en fait, c'est un chemin de toute une vie. Il n'y a pas un moment où on se connaît et puis c'est bon. On a un cheminement, on a des épreuves, on a des expériences qui font qu'on apprend sur soi-même en permanence et on se construit en permanence, on fait des rencontres en permanence. Et c'est ce qui fait qu'on devient ce qu'on devient, quoi, en fait. Il n'y a rien de figé, il n'y a rien de définitif. Autant les bonnes choses que les mauvaises. On peut monter très, très haut, on peut descendre très, très bas. Ce qui est bien quand on est très, très bas, c'est qu'on ne peut que remonter. Non, c'est ce qui construit ce qu'on est, ce qu'on vit. Et puis, oui, je dis souvent, quand j'ai commencé à créer ce club de lecture, donc au début, les auteurs, c'était en littérature étrangère. Aimé Césaire, il était en littérature étrangère. Ou sinon, on me disait Alain Mamban, quoi ? J'ai un cocon familial, une cellule familiale assez classique. Un papa, une maman, deux sœurs, des parents mariés. Ils ont fêté leurs 40 ans de mariage, donc comme j'étais pas loin au moment du mariage, je viens juste après. De ce que je connais de mes parents, c'est des gens qui s'aiment et que j'ai toujours vu évoluer ensemble. Je dis vraiment de ce que je connais, parce que maintenant que je suis parent, je vois bien qu'on montre à nos enfants ce qu'on a envie de leur montrer, en fait. Et comme les enfants montrent ce qu'ils ont envie de montrer à leurs parents aussi. Mais voilà, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est un couple épanoui et qui avance. Et donc, j'ai toujours cette image. Et je pense aussi que ça m'a fait pression, parce que très jeune, j'ai voulu me poser, j'ai voulu... Le pauvre mec à l'époque. J'ai voulu être avec lui, c'était l'homme de ma vie, j'allais faire un enfant, ma mère m'a eu à 24, il fallait que j'en ai un à 25. Même je lui disais, attends, si t'en veux pas, faut me dire, parce qu'il faut que je trouve un mec, parce que j'avais dit 25, là j'ai 22, faut vraiment qu'on... Enfin, il me regardait en mode, tu me parles de temps, tu me parles pas d'envie, tu me parles pas de projet, tu me parles de timing. J'ai dit, bah oui, attends. Et donc j'ai toujours eu, enfin voilà, pour moi c'est le modèle familial, c'est celui que j'ai eu et c'est celui que j'allais avoir. Il n'y a pas de question sur ce truc-là. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et je pense que j'ai eu cette pression de couple parfait, à chercher cette perfection qui n'existe pas et qui n'en est pas une. Et du coup, j'ai une relation qui a duré presque 10 ans et qui, entre mes 20 et 30 ans, dans lequel je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup investie, dont la rupture a été très, très compliquée pour moi. Et j'ai eu beaucoup de temps pour me reconstruire. Donc, c'était... le truc classique de la nana qui ne fait plus confiance, qui monte son mur de protection. Donc, dès qu'on l'approche, c'est... Qu'est-ce que tu fais ? Non. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Enfin, bref. Et voilà. Mais en tout cas, j'ai toujours voulu avoir une famille. Mais... C'est dans l'inconscient, en fait. On grandit dans une famille, donc on va en avoir une. Et je ne me suis jamais dit que ce ne serait pas possible que j'en ai une. après cette rupture, j'ai découvert aussi à vivre seule, parce que je suis sortie de chez mes parents et je suis allée vivre avec mon copain de l'époque, donc j'avais jamais vécu seule, ce qui a été très très compliqué pour moi, me retrouver avec moi. J'étais dans mon appart. Bon, ben... et comme je suis cette fameuse hyperactive, ben j'avais toujours... finalement, je faisais que dormir dans mon appart. Je me suis dit, mais en fait, je paye quand même un loyer. Donc, il faut quand même que je fasse vie dans cet espace et tout. Et j'ai appris à me connaître. Je savais ce que je voulais pas, mais je savais pas ce que je voulais. Et du coup, je crois que je me suis plongée dans ma carrière. Je bossais pour 20 minutes, donc j'étais pas journaliste, mais j'étais du côté régie publicitaire, et je m'occupais des partenariats culturels, tout ce qui était hors ciné et tout. Donc j'avais toujours un vernissage, un concert, un truc. Donc j'étais tout le temps hyper occupée. Puis j'avais ce club de lecture. Et puis oui, j'ai créé ce club de lecture quand je m'ennuyais le plus à 20 minutes. Enfin, et c'était vraiment les dimanches après-midi. Oh, surtout quand on est célib, c'est dur, hein. Là, tout le monde est soit en famille, soit machin. Je suis avec mon mec, je regarde des DVD. Oh putain, c'était trop dur. Et du coup, quand j'ai créé ce club, je me suis dit, je vais le faire le dimanche après-midi. Parce que je me dis, on a le temps de faire la grasse mat, on a le temps d'avoir un rencard après, on a le temps de faire un brunch. Entre 16 et 18 heures, c'est le bon créneau. Et j'ai créé ce club-là sur ce créneau-là parce que je m'ennuyais trop le dimanche après-midi. Je trouvais ça trop triste d'être une femme seule le dimanche après-midi. Et même quand on cuisine, cuisine pour soi-même, quoi. Et enfin, bref. Mais du coup, comme j'ai appris à me connaître, j'avais ce truc de je suis toute seule et en fait, je fais ce que je veux quand je veux. Pareil, j'avais pas de problème à voyager seule, même à manger au resto seule, aller au cinéma seule. J'ai appris à faire des trucs toute seule et je commençais à kiffer à être vraiment seule, quoi. J'attends pas l'autre qui choisit son plat. Est-ce que je prends ça ou ça? Je mange ce que je veux au moment où je veux dans ma petite adresse où ils ont l'habitude. Carrément, je leur disais même pas ce que je veux. Ils me servaient. Je trouvais ça trop fort. Aller au cinéma, j'ai pas à dealer avec quelqu'un de choisir. Quel film, je vais voir le film que je veux, à l'heure que je veux. Et j'ai commencé, enfin vraiment, j'ai apprécié ça. Et puis pour rentrer dans toutes ces histoires de maternité et compagnie, j'ai eu mes règles tard, à 17 ans, et j'ai découvert que j'avais des ovaires polykystiques, donc des règles presque absentes et compagnie. Donc l'autre là, quand je lui disais 25 ans, je l'ai su à mes 25 ans. Enfin, que en fait, à mes 25 ans, comme j'étais dans mon truc de je veux un enfant à 25 ans, même si c'était pas un projet, mais moi j'avais décidé toute seule que j'en voulais un. J'ai dit à ma gynéco que je voulais faire un test de fertilité parce que j'ai des ovaires polykystiques, j'ai des règles hyper irrégulières. Et cette gynéco m'a donné le meilleur conseil que j'ai jamais eu. Elle m'a dit, vous êtes vraiment dans un projet de bébé? Je lui ai fait, non. Elle me fait, à quoi ça sert de faire un test de fertilité? Si on vous dit que vous êtes infertile ou stérile, mais c'est plus de l'infertilité, ça va vous mettre dans une déprime alors que vous n'êtes pas dans un projet de bébé. 2, si on vous dit que vous êtes fertile et que vous essayez que ça ne marche pas, ça va être la même chose. Vous avez 25 ans. Revenez quand vous avez un vrai projet, que vous avez vraiment essayé et que vous avez plus de 35 ans, en fait. C'est le docteur Duranto et c'était dans un hôpital pédiatrique puisque ma mère travaillait à l'hôpital et du coup j'étais suivie, je pense aussi aux gynéco-pédiatriques. On pense rarement aux jeunes femmes, mais c'est hyper important d'avoir un gynéco-pédiatrique parce que tomber sur un bonhomme de 50 balais qui te trifouille alors que t'as 15 piges, c'est hyper violent. Et cette gynéco, comme je passais la majorité, je pouvais plus la voir après et j'ai jamais retrouvé de gynéco avant mes 38 ans. Enfin, voilà, j'en ai vu parce qu'il fallait en voir, mais j'ai pas eu de gynéco avec laquelle je me... Mais en tout cas, cette gynéco-là, le docteur Duranto m'a donné ce conseil-là et ça a été le meilleur conseil qu'on m'a jamais donné. Et du coup, j'étais au moins tranquille sur ce truc-là. Je suis restée presque 10 ans avec cette personne et j'étais jamais tombée enceinte. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans un truc, en fait, ça arrivera quand ça arrivera parce que de toute façon, c'est pas lui vu que c'est fini. Et c'est vraiment arrivé quand c'est arrivé. Mon petit garçon est arrivé d'une manière imprévue, mais bienvenue, avec un homme qui ne voulait pas entendre parler de ma maternité, qui m'a dit que c'était mon problème. Quoi que je fasse, à partir du moment où je lui ai appris ma grossesse, c'était mon problème. Et c'était un amour de vacances, donc c'était rien de sérieux, de constructif, ni quoi que ce soit. Je précise qu'il avait quand même 47 ans. C'était pas un coup d'un soir, de machin et tout, enfin voilà, qui a des enfants et tout. Donc voilà, c'était, je me suis retrouvée avec moi et moi sur ce truc-là. J'étais super heureuse parce que ça fonctionnait. J'avais 33 et je suis accouchée, j'avais 34 ans. Et j'étais contente de me dire que ça fonctionnait. Parce que du coup, comme j'avais pas l'homme, je m'étais plus du tout focalisée sur la question. Et comme je bossais, j'avais mes trucs, enfin, j'étais vraiment la working girl parisienne dans son appart dans le 18e qui bosse dans la culture. Et puis la seule Renoir dans les médias, enfin, vraiment, j'étais dans mon élément. La question des 25 ans d'enfants et tout, ben, je dis, bon, ben, si ça vient, tant mieux. Si je trouve le mec, tant mieux. C'est un pas, tant pis. Et comme je savais ce truc ouvert polykystique, j'avais intérieurement accepté que ça soit possible que j'en ai pas. Si j'en ai pas, je m'éclate, je suis toute seule, ça va. Bon, c'est parfois relou le dimanche après-midi, mais ça va. Et quand il est arrivé, c'était genre... Bah, déjà, c'est très très drôle, c'est que je savais pas que j'étais enceinte. J'ai su que j'étais enceinte au bout de 2 mois, de 8 semaines, donc de toute façon, je pouvais pas avorter. Et de 6 semaines, en vrai. Et on a quand même du temps de réflexion quand on décide de faire un avortement ou pas. Une pote qui me trouvait que je mangeais beaucoup. Et en plus, comme j'ai des règles irrégulières, j'ai pas d'histoire de retard. Je connais pas le retard, en fait. Je connaissais rien, en vrai. J'ai découvert ça à 33 ans. Bah si, t'es fertile juste après tes règles. Ah bon? Bah oui. Ah d'accord. C'est pas avant? Non, pas avant. C'est après. Okay. Bah je savais pas. Donc j'étais dîner avec chez une copine et tout. Puis j'avais faim, j'avais ramené plein de trucs à manger. Puis j'avais commencé à manger. Ma pote, elle me dit, mais tu manges beaucoup, Laurie. Et j'avais grossi, mais que des formes, en fait, de la poitrine. Je me trouvais juste bonne, quoi. Je grossissais des bons endroits. Ouais, c'était très bien. Et ma pote, elle me dit, mais t'es pas enceinte? Je la regarde avec un air de Renoir méfiante, là. Je sais pourquoi. Elle me dit, y a que toi qui peux savoir. Bah, elle habite pas très loin. Elle est à Porte de Vincennes. Et il y a une pharmacie de garde à Vincennes. Et c'était le soir à 23h. Et elle me dit, bah, viens, je t'offre un test de grossesse. Je fais, bon, j'ai pas besoin de test de grossesse. Elle fait, viens, tu sais pas, moi, je veux savoir. Le confort à la pharmacie. Et là, je commence à cogiter. Je me dis, mais si ça m'arrive, mais c'est pas... C'est mais je... Enfin, j'étais pas dans le... J'étais pas du tout dans ce projet-là, quoi. J'étais pas du tout là-dedans. Enfin, bref. Donc, la pharmacienne me pose cette fameuse question de si j'ai du retard. Donc, j'ai dit, en fait, du retard, j'en sais rien. Et elle me fait, mais vous avez la poitrine. Et donc, du coup, quand elle me donne les symptômes, je lui dis, ah oui, ah oui,
ah oui.
Et elle me pose la question... Est-ce que vous le voulez? Ce qui est une question délicate, mais en même temps, qui est importante à poser. Ma bouche a répondu avant mon cerveau. Je me suis entendue dire oui. J'ai dit oui. Enfin, vraiment, je me suis entendue dire oui. J'ai dit, Laurie, ah bon, t'en veux un? Et donc, voilà. Et ça a été un peu compliqué, même très compliqué, même avec ma famille. Enfin, de toute façon, en plus, quand j'ai annoncé ça à un très proche pote à moi, il m'a regardé et il me dit, t'es la Vierge Marie ou quoi? T'as pas de gars et t'es enceinte? Parce que c'est vrai que... Je suis hyper discrète sur ma vie perso et c'est vrai que le couple est une norme sociale et la rupture, c'est plus être dans cette norme. Et cette rupture à chaque fois, mais alors comment il va? Non mais, ah t'es plus avec. Avec ce air complètement désespéré. Oh ma pauvre, je veux dire ça va, je respire. Ouais c'est ça, n'importe quoi. Et donc, ben, à chaque fois que j'annonçais que cette aventure, j'allais l'assumer seule. Et non, ça a été compliqué. C'était pas du tout prévu, mais pour moi, je l'ai pris vraiment comme un miracle. Ovaire polykystique, règles, machin, 10 ans avec quelqu'un, jamais tombé enceinte et tout. Je suis là, je sais pas, j'avance et bim, il est là. Et j'ai décidé d'avancer, que c'était mon miracle à moi et qu'il fallait que j'en prenne soin. Enfin, le corps est trop bien fait. Ces fameux 9 mois préparent à l'arrivée. Et même pour soi. J'ai mangé plus de légumes, je faisais plus attention à mon sommeil. Quand je prenais le métro, je faisais attention à ne pas tomber. Enfin, on s'habitue déjà à ne plus être toute seule H24. Parce que c'est quand même ça, être parent, c'est ne plus être seule H24. Même quand ils ne sont pas là, en fait, ils sont là. Parce qu'il faut les récupérer à un moment donné. Et... Par contre, je ne savais pas ce que c'était de la famille monoparentale. Un, c'est tabou. Et deux, c'est pas celui dont je suis issue. Moi, je viens d'une famille hyper classique à la cause Bichot, avec un papa et une maman. Eux, ça a été compliqué d'accepter ça, d'accepter que j'étais plus leur petite fille aussi. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Limite, ils me posaient la question, mais quand est-ce que tu avortes? En fait, je t'annonce quelque chose, je te demande pas de participer à la décision de ce que je vais faire. On n'est pas en train de choisir ensemble de ce que moi, je vais faire en fait. De ma maternité, si je t'annonce quelque chose, que tu le reçoives bien ou pas, en fait, c'est mon choix. Et ça a été compliqué à assumer au sein de cette famille Cause Bichot. Dans les familles, on a l'impression que tout se passe bien. Ben, on ne sait pas gérer les conflits. On ne sait pas gérer les conflits. En plus, je suis une aînée. Alors, voilà l'exemple que je donne. Et ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que j'ai beaucoup de tantes qui n'ont pas d'enfants. malgré moi, j'avais cette pression de pas vouloir être, enfin, finir seule sans enfant. Cette pression de me dire, ouais, moi, je veux des enfants. J'avais pas du tout envisagé la monoparentalité. Pas du tout, enfin, à aucun moment. Moi, c'était mariage, c'était tout le temps, quoi. Je voulais un daron comme mon... Enfin, je voulais un mec comme mon père. Et du coup, c'était vraiment... Quand je suis arrivée à la crèche, j'étais un peu comme une autiste. Oui, alors votre fils a un problème particulier. Ben, il a pas de papa. Non, mais un problème. J'ai dit, non, mais vous vous rendez pas compte. Il a pas de papa. Et la directrice de la crèche, elle me fait, mais il est pas le seul. Et elle me dit, il a reconnu. J'ai dit, ben non. Elle me dit, ben vous avez de la chance, parce que s'il avait reconnu, il pourrait venir le chercher quand il voudrait. Et là, je dis, ah bon? Elle fait, bah oui. J'avais fait aussi une demande de logement à l'époque, avec mon gros bidon et tout. Et la nana de la demande de logement m'avait demandé si j'étais seule et j'avais dit oui. Et elle m'a dit, vous vous rendez pas compte à quel point vous avez de la chance. Et je l'ai regardée, je me suis dit, mais elle sait pas dans quelle galère je suis, en fait. Elle se rend pas compte de ce qu'elle est en train de me dire. Et ben aujourd'hui, je me dis, vaut mieux être dans une famille monoparentale équilibrée qu'avoir un parent, et je ne dis pas forcément un papa, hein, une maman ou un papa, un parent nocif, vraiment. Je le vois, j'ai des amis qui sont même en couple. Gérer un parent nocif, ça doit être vraiment lourd. Vraiment, moi, il n'y a qu'un seul son de cloche. Et c'est mon prénom. J'ai une copine qui devait dealer le prénom de son fils. Elle a failli divorcer à cause de ça. Et moi, c'est le prénom que je voulais. Je n'ai pas besoin de choisir avec personne. Le prénom qu'il a, c'est moi qui l'ai choisi. Ben en fait, l'arrivée de Swan, ça a réconcilié tout avec mes parents. Parce que c'était vraiment compliqué. J'ai dû faire un déménagement en 24 heures. Je ne savais pas où j'allais. Ouais. Et puis, mon père a eu le fils qu'il n'a jamais eu. J'ai compris la valeur d'un garçon. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a dit, ma grand-mère paternelle, elle m'a dit, t'as réussi du premier coup ce que ton père n'a jamais réussi à faire. Et moi, je réfléchissais. Je me disais, mais de quoi elle me parle? Comme mon père avait un restaurant, je me dis pas, restaurant. En fait, un garçon, c'est une femme qui me dit que j'ai ma grand-mère. C'est-à-dire que nous, on compte pour rien du tout, quoi. On est trois. C'est pas genre je suis seule, c'est on est trois, quoi.
Et d'ailleurs, tu parlais beaucoup de transmission tout à l'heure. Comment est-ce que tu transmets à ton fils, parce que je ne sais pas d'où vient le papa, mais comment tu fais en sorte qu'il ait une trace de ton histoire, ton identité?
Alors, je sais que je le fais malgré moi, mais par exemple, à ses 3 ans, il est parti, avec du recul, je me dis, il était petit, il est parti 1 mois en Guadeloupe avec mes parents. Et j'avais pas les moyens d'y aller avec lui. Et j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient, parce que je voulais qu'il ait ce truc d'espace, machin. Enfin, moi, je pensais des vacances, tout frais payé, en fait. Et en fait, c'est quand même une immersion dans sa propre culture. Il a rencontré toutes ses grand-mères, ses tantes, il allait à la plage, il avait son cousin là-bas, il pouvait jouer dans le Zayen, voilà. Il avait l'espace, le soleil, la bouffe, et ça dès ses 3 ans en fait. Voilà, aujourd'hui il a 6 ans, je me rends compte que heureusement que j'ai fait ça. Alors moi j'ai retrouvé ma life pendant 1 mois, c'était trop bien. Je pensais que j'allais être triste. J'ai kiffé. Quand il est revenu, je me suis dit, déjà, on reprend vite sa vie de célibataire. À pas avoir de contraintes d'horaire, quoi. Et pourtant, c'est un dormeur. Enfin, c'est pas un enfant qui se réveille super tôt. Il a fait ses nuits super tôt. On m'a dit à la maternité que les enfants de parents seuls sentent qu'ils sont seuls. Et Swan, il a fait ses nuits super tôt. Enfin, les enfants sentent tout, de toute façon. Et donc, voilà. Et oui, et donc, dans la transmission, on transmet malgré soi, j'ai envie de dire. J'aime pas les champignons. Il mange pas de champignons. J'aime pas le fromage, mais il mange du fromage chez ses grands-parents. Je sais pas, moi, il y a plein de trucs. On brunch le dimanche. On va au repas dominical quand on a envie chez mes parents. On va bien manger chez mamie. Donc, du coup, chez mamie, il y a la bouffe de sa culture d'origine. Donc bah, voilà, je kiffe les bouquins et j'ai acheté des bouquins avant qu'il naisse. Donc il est né, il y avait déjà une bibliothèque, même l'autre fois. Donc à Noël, j'offre beaucoup de livres et tout, donc je suis toujours à la FNAC, machin. Et il m'a dit, non mais on dirait vraiment que c'est une obsession chez toi les livres, maman. Parce que je cherchais un truc et la nana m'a dit qu'il n'y avait pas, alors je savais qu'il y avait, donc je cherchais et je l'ai trouvé. Et j'étais à fond dans mon truc. Et il me dit, mais c'est vraiment une obsession les livres chez toi. Et en même temps, là, il commence à apprendre à lire. Enfin, là, il lit clairement, mais du coup, il lit les tranches des livres dans la bibliothèque. Donc, il lit Malik Sidibé, Beauté Congo. J'ai acheté le bouquin de l'exposition Le Modèle Noir. Puis, il lit Le Modèle Noir. Donc, il lit les choses et en fait, il n'y a que ça autour de lui, le pauvre. Parce qu'il s'entraîne à lire. Enfin, comme il va lire Cristaline sur une bouteille ou Nutella sur Nutella, mais il lit tout ce qu'il voit autour de lui. Et comme il lit toutes les tranches, il lit Toni Morrison, il lit Maya Angelou, il lit tous ces trucs-là, il lit Malik Sidibé. On a une photo de Malik Sidibé accrochée, donc je lui explique Malik Sidibé. Donc on ouvre le livre et on regarde les différentes photos. Et en fait, on transmet malgré soi, quoi. Donc pourquoi c'est simple, je me suis retrouvée avec des livres où j'avais personne avec qui en parler. Je vais faire ma détectrice, je vais dire à tout le monde de lire le bouquin. Et comme ça, on va au moins, je vais obliger les gens à lire. Donc au début, c'était des potes. Après, je travaillais dans la communication, donc je faisais des newsletters, j'avais un MySpace et compagnie. Donc ça a pris et ça m'a plu surtout. Mais il faut savoir que j'ai lu tard, moi. J'ai lu en sortant de l'école. J'étais très presse, mais pas du tout littérature. J'ai pas cette histoire de quand j'étais petite fille, je rallumais la torche ou mon énorme. J'ai pas. Je l'ai maintenant. J'ai ma petite lampe pour réveiller personne. Voilà, je l'ai adulte, mais je l'avais pas du tout enfant. Et du coup, quand Swan est arrivé, j'ai commencé. Je me suis dit comment je vais faire aimer les livres et tout, le pauvre. Et à la médiathèque de ma ville, il y a un atelier pour les 0-3 ans. J'étais étonnée que ce soit pour les bébés, pour leur présenter les livres, leur raconter des histoires et tout. Et là, on apprend que nous, en tant qu'adultes, on prend un livre, on tourne les pages, on suit l'histoire. Les enfants, ils peuvent jouer. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'écoutent pas. Que parfois, ils restent sur des pages. Parfois, ils veulent fermer le livre, mais ce n'est pas grave. Qu'il faut prendre des matières cartonnées selon les âges. Ils veulent manger les livres. Et ce n'est pas grave. Ils apprennent à remettre le livre dès le plus jeune âge. Et l'école des loisirs a des bouquins comme ça où on doit bouger le livre et on voit le personnage, on doit le retourner, du coup on voit le personnage pencher et tout. Et du coup j'ai trouvé ça top. Et du coup je voulais faire ça avec des noirs. Et pas que avec des noirs, pour le coup je trouvais important que notre société multiculturelle soit représentée. Parce que voilà, il y a quand même pour le livre, le club de lecture pour enfants, quand j'ai commencé à acheter des livres pour mon fils, je me suis dit... S'il n'y a que des blancs, même si l'histoire elle est mortelle, je ne prends pas de bouquin. S'il n'y a que des blancs, ce n'est pas possible. Il faut au minimum qu'il y ait autre chose. Et du coup, j'ai commencé à chercher, alors pas forcément que des noirs. Il y a un classique qui s'appelle « Deux petites mains et deux petits pieds » pour les tout-petits. Et il y a des enfants de toute culture et même de toute carnation, coloration de cheveux. Il y a des roux, des blonds, des asiatiques, des noirs. Donc, il y a tout. Et voilà, moi, je voulais vraiment que mon fils puisse se projeter physiquement et voir que son monde est divers dans ce qu'il va ouvrir quand il l'ouvrira, parce qu'à quelques mois, c'est pas possible qu'il le fasse tout seul. Mais c'était un point d'honneur pour moi. Et quand j'ai fait cet atelier-là à la médiathèque du Kremlin, l'écho du Kremlin-Bicêtre, je me suis dit, je vais le faire avec des noirs. Et c'est comme ça que le club de lecture est né. Et en plus, c'est pas qu'un club de lecture, mais on fait des séances de yoga. Je fais pas garderie. Ça, c'était le point d'honneur. Il faut savoir que j'ai jamais gardé les enfants des autres avant d'avoir un enfant. Je le fais un peu plus maintenant que j'en ai un. Mais moi, quand j'avais pas de gosse, mes copines, elles font « Ouais, tu peux garder. » Ah non, si j'ai pas d'enfant, c'est pas pour garder ceux des autres. Mon temps libre est précieux. Quand il dort, si tu veux. J'arrive, tu le couches, tu peux faire toute la nuit, tu reviens et il se réveille. Mais c'est tout. Changer les couches, tout ça, non. Avant d'avoir un enfant, c'était pas possible. Alors que je fais beaucoup garder mon fils. Mais je voulais que ça soit un atelier parent-enfant. Parce que je me suis rendu compte que le livre permet d'aborder des sujets en ayant du recul. Moi, par exemple, typiquement la famille monoparentale. Je ne savais pas comment en parler. Il y a un bouquin de Dolto qui s'appelle « Vivre avec, seul avec son parent ». Il y a un autre bouquin qui s'appelle aussi « Famille » que j'adore, où il y a vraiment tout type de composition de famille. Famille nombreuse, famille recomposée, famille homoparentale, toute culture. Il y avait aussi il y a un enfant qui vit avec des grands-parents, donc ça doit être peut-être des enfants qui ont perdu leurs parents et qui vivent avec leurs grands-parents. Il y a tellement de compositions de famille possibles, parce qu'être une famille monoparentale, tu peux voir ton père ou ta mère. Tu peux avoir un parent décédé, tu peux avoir des parents divorcés, tu peux avoir un parent déficient, malade, tu peux avoir un parent complètement absent que tu n'as jamais connu, c'est encore un autre mode. Donc déjà dans le modèle familial, il y a déjà plein de modèles différents.
Et du coup, ça me fait penser à ton militantisme, parce que du coup, tu en as parlé un peu au début. Je sais que tu fais partie du collectif Adama. Mais ce que je veux dire par là, c'est ce militantisme, j'ai compris finalement qu'il a toujours été là, en fait. Mais est-ce que l'arrivée de ton fils, en plus qui est un enfant, un garçon noir pour le coup, et métisse en plus, est-ce que ça a exacerbé, entre guillemets, ta soif de justice, en fait, ou pas du tout?
Elle a toujours été présente. De ce que je connais de mes parents, c'est toujours la même chose. Parce que parfois, on découvre des choses quand ils ont fait plus jeune. Tu n'en sais rien, en fait. Ils ne m'ont pas plus poussé dans cette voie-là. Mais c'est vrai que faisant partie du comité, je me suis retrouvée avec Swan chez Assa. Et donc, il nous voit faire des réunions. Il nous voit dans notre truc. Il ne participe jamais aux manifestations parce que c'est trop dangereux pour eux. Et puis même, on travaille en vrai. Donc, on ne peut pas s'occuper des enfants en vrai. D'ailleurs, il me dit « Oui, moi, j'aimerais aller dans une manifestation. » Ça n'a pas exacerbé, mais en tout cas, en fait, tu peux participer au changement de ce monde. Pour le coup, j'ai pensé à deux. Donc, il y a déjà Janelle Monae, qui est... je l'ai vue en concert plusieurs fois. Son engagement... Ouais, son engagement, sa puissance, son style, elle a trop de style, là. C'est chaud, ils sont trop forts. C'est une vraie musicienne, elle aime vraiment la musique. Puis, elle est actrice. J'ai adoré son rôle dans Moonlight. Cette fameuse femme qui n'a pas d'enfant, qui est meilleure mère que la propre mère. Donc voilà, la maternité, ça passe pas forcément par le fait d'être enceinte. Puis elle a fait d'autres films, et du coup, je retiens Moonlight parce que ça fait partie de mes films préférés. Elle a l'air tellement elle, noir, blanc, rouge à lèvres, elle a trop de style, la meuf. Yeah, yeah, this is my palace. Champagne in my chalice. I got it all covered like a wedding band. Wonderland, so my alias is Alice. J'adore les levers et couchers de soleil, comme beaucoup de gens. Mais cette année, pour 2021, j'avais besoin de voir le premier jour se lever. Et j'ai décidé ça à 6h du mat. Et du coup, j'ai pris un Uber, parce que je voulais avoir un point à Paris, voir un lever de soleil à Paris. Il y a Montmartre, mais j'habite le Kremlin 7, c'était un peu loin. J'allais être en retard pour le machin. Bref, je me suis mis sur le pont de François Mitterrand. Le paysage n'était pas idyllique, mais j'ai vu la première journée de l'année se lever et j'étais trop contente de pouvoir faire ça. Et quand j'ai pris mon Uber, et c'est quand même mon année de ma quarantaine, donc 2021, j'ai pris mon Uber et le son que le mec a mis, c'était Feeling Good de Nina Simone. Et c'est mon hymne de ma quarantaine. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Franchement, tout s'est fait à l'arrache, mais tout était posé au bon moment et tout. Si, j'aime bien Nina Simone, mais voilà, Janelle, voilà, c'est plus ma cam, on va dire. Mais le Feeling Good, je l'ai écouté avec tellement d'attention. Je vais rentrer dans cette quarantaine. Et c'est vraiment ce truc-là, quoi. Donc déjà, il y a Pam Grier, Jackie Brown, ce film-là. À chaque fois que je le vois, je me dis, mais elle a une prestance, cette meuf. Déjà, quand on remet dans le contexte de l'époque, c'est ouf. Mais déjà, dans le film, elle joue trop bien. Le rythme, la musique, elle joue trop bien. Et il y en a une autre auquel j'ai réfléchi aussi, c'est Jada Pinkett. Elle est trop belle. Et c'est une femme qui a mis de côté sa carrière pour sa parentalité et la carrière de son mari. Elle a fait ce choix. Et délibérément, enfin, c'est pas contraint. Elle aurait pu prendre des nounous, enfin, vu les moyens qu'elle a, elle aurait pu. Non, elle a choisi de consacrer un espace important à l'éducation de ses enfants. Chez moi, je sais pas combien de temps Beyoncé a passé avec ses enfants, par exemple. C'est une personne qui a travaillé toute sa vie depuis enfant à taf. Elle fait que taffer. Ses parents l'ont éduquée pour taffer. Alors, j'espère, je connais pas sa vie, qu'elle a du temps de qualité avec ses enfants. c'est un choix d'avoir les moyens et de consacrer un espace, du temps pour faire que ça. Et en ça, donc évidemment, dans ces rôles plus jeunes, j'aime beaucoup. Et plus récemment, là, dans le film à la Nouvelle-Orléans, comment il s'appelle ce film ? Voilà, les noms, là, ils me sonnent. On voit qu'elle va jouer pour s'éclater, en fait. Elle s'est fait plaisir, en plus, dans le film. Et faire ce choix, je trouve que c'est admirable, en tout cas, pour moi. Alors, tant que je serai noire, je brillerai et je serai moi-même. Je n'ai pas à prouver à qui que ce soit qui je suis. Toutes les personnes comme toi qui ont envie de faire leur projet, leur podcast, écrire un livre, écrire une pièce de théâtre, faire un enfant, pas faire d'enfant, toutes ces personnes qui ont envie de faire des choses, qu'elles le fassent. Il faut vraiment faire. On se projette, on se donne des freins soi-même, on se sent pas capable, faut faire. Quitte à se tromper, faut faire. Parce que c'est de toute façon une expérience et je trouve ça important de dire « Ah, si j'écrivais un bouquin, mais non, mais j'écrivais un... Ah, si... » Et moi, la première, hein, mais faut faire. Les femmes qui veulent un enfant et qui n'ont pas la graine, prenez le risque de le faire si vous voulez vraiment un enfant. Et celles qui ne veulent pas le faire, assumez le fait de... Vous n'avez pas à vous justifier auprès de qui que ce soit. Même pas vous-même.
Merci à Laurie pour ce bel épisode. Merci à vous, auditrices et auditeurs, car sans vous, le podcast n'existerait pas. Merci à Alice pour le super montage de l'épisode. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram Les Belles Fréquences. Je remercie aussi Agnès pour les illustrations. Vous pouvez suivre son compte Instagram Agnès Illustration. Et enfin, suivez Tant que je serai noire et surtout, likez, partagez et laissez des petites étoiles sur Apple Podcasts. À bientôt !